Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Salut à toutes et à tous. Et bien voilà, c'est parti pour De quoi je me mêle. Un nouveau week-end qui s'annonce. D'ailleurs, on vous souhaite excellent. De quoi je me mêle, votre rendez-vous donc dédié à la tech de la fin de semaine que vous pouvez retrouver donc le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Dès le vendredi, en podcast, audio, mais aussi vidéo sur YouTube et sur bfmtv.com dans la rubrique Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu de quoi je me mêle en cette semaine. Et bien, tout à l'heure, c'est Lionel Costa, qui est le responsable du Labo Fnac, qui viendra nous rendre visite comme régulièrement maintenant. C'est un nouveau rendez-vous que vous retrouverez de temps en temps dans De quoi je me mêle, et on va s'intéresser avec lui aux barres de son. Pourquoi cette folie des barres de son? Pourquoi faut-il aujourd'hui complémenter en quelque sorte sa télé avec ce type d'engin? Comment détecter les bonnes des mauvaises? On fera le point avec Lionel, puisque au Labo Fnac, autant vous dire qu'ils s'y connaissent un tout petit peu dans ce domaine. Le hashtag des QGMM sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre, à réagir. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT, que faut-il retenir de l'actu tech de cette semaine? On voit ça avec nos deux experts. Raphaël Grably, salut.
Salut François.
Rédacteur en chef de Tech & Co. Et en face de lui, le regard affûté, alors qu'il s'est levé à minuit et demi, comme chaque jour.
C'est l'heure à laquelle je me suis couché.
Tiens. Oh non, je me lève un petit peu plus tard, à 3h.
Non, 3h du matin. Ouais. C'est un peu le Robocop de la rédaction. C'est Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut François, salut Raphaël.
Non mais franchement, entre parenthèses, vraiment, hein, je t'admire. Vraiment.
Oh, mais t'es gentil, mais non, c'est mais pas sérieux. La vie, on vient faire un truc quand même assez sympa.
Ouais, tu vois, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, pour avoir fait 20 ans de matinale sur RMC,
je sais
ce que c'est.
Je sais bien.
Et voilà.
Il y a des matins où ça pique, ça c'est vrai.
Il y a des matins où ça pique, mais c'est vrai qu'on fait un métier formidable. Et le fait de vous informer et de vous distraire parfois de temps en temps est quand même très agréable. Anthony, qu'on peut retrouver donc le matin dans Good Morning Business, mais aussi avec Estelle Denis, entre midi et deux sur RMC. Alors, dans l'actu, on va parler de GTA 6. GTA 6 n'est pas sorti. C'est l'un des plus grands secrets du jeu vidéo à chaque fois.
Ah, hein. Mais c'est clair, il y a une attente incroyable.
Incroyable.
C'est sûrement le jeu vidéo le plus attendu du moment et peut-être de l'histoire du jeu vidéo.
De l'histoire. Ouais. Donc là, GTA 6, qui est en développement depuis, oulala, depuis très 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 longtemps.
Ouais, depuis plusieurs années. Ouais.
Depuis plusieurs années. Alors, on n'est pas encore sorti, mais en revanche, on a eu quelques informations. Il y a eu un leak énorme semaine. Hein,
ah
Anthony.
Oui. Ah bah là, c'est la cata pour GTA, là, c'est clair. Et c'est... Alors, c'est marrant, comme les actus se télescopent, parce que la semaine dernière, on avait tout le débat sur les fuites d'informations volontaires ou pas. Des grands groupes technologiques.
Là, je crois que c'est pas volontaire.
Ouais,
là on peut se dire que c'est pas volontaire.
Qu'ils ont pas fait exprès et que ça les arrange pas du tout, Rockstar, l'éditeur, cette fuite massive de données qui a été révélée dimanche. En gros, il y a des dizaines de vidéos qui ont fuité, des vidéos dans lesquelles on voit en gros des bouts de GTA 6. Donc il y a des séquences de jeu, on voit certains personnages, on voit des séquences à l'intérieur de voitures.
C'est quoi, on dirait que c'est presque des vidéos de promo en fait, tu sais, ou je sais pas quoi.
Bah, en fait, ouais, alors il y a un peu de tout en fait. Il y a à boire et à manger, t'as des morceaux de scénario, t'as un bout de code source du jeu aussi, ce qui est un petit peu embêtant.
Ça, c'est un peu plus embêtant.
C'est des images qui sont en fait pas très abouties. Si c'est des images de promo, c'est pas vraiment
bon pour
Rockstar parce que en fait c'est une version alpha. Donc si tu veux, ça rend pas vraiment justice au produit final tel que il sera proposé commercialement probablement. Et effectivement, fuite énorme. Donc apparemment, ils ont subi une cyberattaque hein, tout simplement. Et on se retrouve avec eh bien ces images qui ont fuité. Alors évidemment que nous on ne diffuse pas. Hein. Celles que vous voyez là, c'est des images probablement de GTA 5 et des différents épisodes parce que pour des raisons de droit on n'a pas tellement envie de se prendre un procès par Rockstar
hein, et puis en plus c'est pas très sympa je trouve
en plus,
c'est clair
non mais absolument mais il faut se rendre compte alors pour comprendre l'ampleur de cette fuite il faut comprendre l'ampleur de GTA et le fait que c'est en fait aujourd'hui l'un des produits culturels les plus puissants au monde. Pour avoir juste deux éléments chiffrés, GTA 5, donc l'épisode précédent, c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, 170 millions de copies, donc c'est juste derrière Minecraft. Et c'est le produit culturel, toutes catégories confondues, qui a atteint le plus rapidement le milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus que n'importe quel film. Donc en gros, c'est un peu comme si vous aviez 90 minutes du prochain Avengers ou du prochain Avatar qui fuitait sur Internet plusieurs mois avant la sortie. C'est quand même un petit peu problématique.
Et encore, les Avengers, il y en a 8 par an. Enfin, il y en a 8 par an. Là, c'est un tous les 10 ans. Parce que c'est 2013, GTA 5. Donc là, on parle de au moins 2023.
Oui, voilà. C'est un jeu d'une telle ampleur, d'une telle complexité. Parce que rappelons qu'on est dans des environnements ouverts.
Hein, sandbox, bac à sable.
Et donc, il faut des années, 10 ans. Donc, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir, ce GTA 6.
Bah, je crois qu'il était prévu pour l'an prochain à l'origine. Mais le truc, c'est que là, ça risque encore de... Enfin, peut-être, là, c'est moi qui fais des supputations, mais de retarder la sortie. Parce que si, effectivement, il y a des morceaux du code source du jeu qui ont été volés, c'est extrêmement problématique. Parce que ça permettrait, le jour où on sort, où des hackers ont accès à ces morceaux de code source, de créer des failles, des modes de triche, potentiellement du vol de données. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se produire à partir de ça. Et donc, du coup, sur certaines parties du jeu, les développeurs vont devoir reprendre à zéro, ou en tout cas vont devoir revenir largement en arrière. Donc, ça risque d'être quand même assez compliqué.
Est-ce qu'on sait comment tout ça est arrivé ?
Alors, il y a pas de... Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. J'ai lu, mais il n'y a pas de certitude à ce sujet, que Rockstar, à la suite de ça, voulait remettre en question son organisation en termes de télétravail. Ce qui laisserait penser que peut-être, tu vois...
Oui. Il y a eu des fuites.
Comme tu as la surface d'attaque qui est beaucoup plus importante avec le télétravail, tout le monde qui travaille à la maison, pourrait venir de là, mais il n'y a pas de certitude.
Je crois qu'il y a une fuite au niveau du service support à la base, et par le service support, il a réussi, le hacker, à ensuite infiltrer... C'est-à-dire en se faisant passer pour le support, filtrer ensuite les postes de certains salariés de Rockstar. Après, si on met de côté, il y a la partie de code source, donc on ne sait pas trop, on sait qu'il y a une partie du code source, mais après, est-ce que c'est 0, 1% ou c'est 20%, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, sur la partie cheat, sur la partie faille de sécurité potentielle, là, c'est important. Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir encore plus un mouvement de sympathie ?
Oui, c'est clair.
Parce que moi, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que, d'ailleurs, nous les premiers, en fait, dans le premier papier, on a intégré, pas les vidéos, mais on a intégré des tweets qui montraient des extraits, et on s'est fait un peu taper sur les doigts par des internautes. Pas forcément d'ailleurs à tort, bon après, de toute façon, les vidéos ont été supprimées. Mais c'est vrai que finalement, les gens se disent, attendez, c'est notre bébé, c'est notre surprise, nous spoilez pas, nous gâchez pas la surprise, et finalement... Je pense que pas un exemplaire de GTA 6 ne sera vendu en moins à cause de cette fuite, voire à mon avis même peut-être davantage. Je trouve que la réaction de Rockstar était plutôt rassurante. Alors j'espère qu'ils disent la vérité, mais ils disent en gros, ça remet pas en question les échéances, nos projets à venir. Donc c'est un piratage qui est emmerdant, mais qui a priori ne remet pas en cause la date de sortie du jeu. Et puis après, effectivement, là où notre rôle, c'est aussi de rappeler... Oui, les vidéos, pour ceux qui les ont vues, sont pas forcément sublimes, mais c'est de la version alpha. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que de toute façon, dans ces vidéos, à ce stade, le moteur final, le moteur graphique final, n'est même pas encore totalement implémenté. Ce qui fait qu'on est quand même assez loin de ce qu'on verra sur la version aboutie de GTA 6 sur PS5. Et j'ai envie de dire, peut-être que ça renforcera encore plus la surprise. C'est-à-dire que finalement, on aura quelque chose que de toute façon... on n'aura pas vu dans les vidéos qui ont fuité.
Ouais, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont vu ces vidéos, qui ne sont pas allés chercher plus loin sur le fait que...
Non, mais ils verront le
finale.
Produit fini. Ouais, mais au moment de voir le produit fini, je dis bon,
peut-être qu'ils
seront sûrement rassurés, je pense.
Peut-être qu'ils font la
moi, je pense pas. Je pense pas que c'est un impact sur le business
moi,
de GTA,
pense
parce que finalement,
n'a aucun.
Voilà, et puis ce sont que des vidéos. GTA, c'est le fait d'interagir, de s'immerger dans le jeu, etc. Enfin voilà.
Moi, je suis pas si sûr que ça. Moi, quand même, je pense quand même que le côté. Alors, il y a le côté spoil, il y a le côté version non aboutie qui est quand même donne pas une image incroyable du jeu. Et il y a le côté quand même... Alors, effectivement, ils disent qu'il n'y aura pas de retard. Moi, je me méfie quand même. Moi, je me souviens, le précédent, c'était quand même Half-Life, la suite d'Half-Life où il y avait eu une fuite de données aussi. Et ça avait donné lieu à un retard. Et ça avait été une catastrophe pour l'éditeur.
Oui, parce qu'en plus, à l'époque, le scénario d'Half-Life, c'est capital.
Ah, bien,
en fait,
sûr, voilà. bien sûr.
Mais par contre, le jeu avait cartonné derrière.
Oui, absolument. Et je suis d'accord avec toi sur le côté communauté aussi de GTA et les joueurs qui ont une sorte de bienveillance vis-à-vis du jeu et vis-à-vis des images qui pourraient être spoilées. D'ailleurs, le hacker était apparemment, on disait être en discussion et en négociation avec Rockstar, en gros pour essayer de leur extorquer de l'argent. Je sais pas s'il y est parvenu en définitive.
En tout cas, je lui souhaite de pas se faire retrouver par les flics.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est le même gars qui a Uber aussi. Uber aussi.
C'est le fameux groupe Lapsus.
C'est ça.
Alors, Comme souvent dans ce genre de cas, il n'y a pas tellement de certitude, pour le, enfin en tout cas pour le moment. Mais a priori, ce sera donc Lapsus qui regroupe quand même plutôt des ados et qui aurait aussi hacké Uber. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, il va falloir un peu de temps pour avoir confirmation de tout ça. Et je pense que vu les enjeux financiers pour Uber aussi d'ailleurs, mais notamment pour Rockstar, je pense qu'il va y avoir des suites judiciaires assez corsées. Voilà, tout dépend où se trouve l'équipe de hackers potentiel.
C'est clair. Enfin, moi, ça me donne envie de...
Ça donne envie de jouer,
de rejouer à GTA 5.
Non, mais c'est ça. T'as une PS5.
Ça y est, oui, j'ai une PS5.
Voilà, donc, c'est la bonne nouvelle quand même de la rentrée. Hein.
Je sais pas si on l'a dit. Enfin m'acheter, et en plus, je suis content parce que je l'ai acheté 15 jours avant l'annonce de l'augmentation de...
Ah, très bien.
Bah, tu joues à quoi?
Là, je joue à FIFA et Spider-Man Miles Morales, qui est vraiment sympa.
Ouais, ouais. Qui est vraiment cool.
Et alors, en plus, j'ai eu du pot, j'ai ramené ma PS4, je me suis dit, je vais rien en tirer. Et je sais pas, je suis rentré dans un Micromania, honnêtement. Ça faisait des années que je n'étais pas rentré dans un Micromania. Je sais pas, ce jour-là, il faisait un peu une
espèce
offre sympa.
De promo, ouais.
Et c'était vraiment la PS4 fat, la toute première, stockage minimum et tout. Et ils m'ont repris 200 euros. Donc, en fait,
franchement, 200 balles.
Et en fait, on vend beaucoup. Ils me disaient, j'étais étonné. Ils me disaient, non, mais en fait, on vend beaucoup. Il y a une grosse demande, vu qu'il n'y a pas de PS5, pour les cadeaux, pour notamment peut-être pour les un peu plus jeunes, on offre une PS4 reconditionnée. Voilà.
Pas mal. Très bien. Dans l'actu aussi, on va revenir sur l'iPhone 14. Alors, on en a beaucoup parlé. Les tests vous attendent sur le site de Tech & Co, bien sûr. Deux actus. Anthony, une qui est assez, qui est passée inaperçue, mais que tu voulais mettre en avant, c'est la réparabilité de ce nouvel iPhone.
Ça y est, on a trouvé l'innovation de ce nouvel iPhone. On l'a cherché pendant une émission.
C'est quoi, ils n'en ont pas parlé?
Mais c'est exactement ça. Ouais, moi, je comprends pas.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
Je me suis dit, ça se trouve, j'ai loupé un truc dans la keynote, mais vous l'avez suivi aussi tous les deux. Je pense pas qu'ils en aient parlé.
Mais non, mais justement, c'est encore plus classe.
Ouais, peut-être. Ils pensent qu'ils l'ont fait exprès. Bah, ouais,
évidemment.
Donc, juste pour expliquer, donc c'est le site iFixit qui fait référence sur tout ce qui est réparabilité des smartphones. C'est eux qui décortiquent, qui réparent les iPhones et tous les smartphones d'ailleurs, et qui donnent des score de réparabilité. Et là, gros bon point pour Apple qui se retrouve avec l'iPhone 14 avec un 7 sur 10, ce qui est très rare. J'ai regardé la notation d'iFixit. Quand on regarde les autres smartphones haut de gamme, il n'y en a aucun qui est à ce niveau-là. Alors, il y en a un qui est à 10 sur 10, c'est le Fairphone, mais personne veut du Fairphone, donc ça, c'est pas... Voilà, il est hors catégorie. Mais derrière, tu as par exemple...
Le Fairphone qui se démonte même si tu ne le démontes pas.
Oui.
C'est ça qui est top.
T'es là,
ton téléphone.
On peut leur faire crédit du fait qu'ils sont forts là-dessus. Voilà, non, après, c'est pas forcément le téléphone dont on veut.
C'était une petite plaisanterie.
Mais le Pixel 6 Pro, par exemple, il est à 5. Les derniers Galaxy de Samsung sont à 3 sur 10. Donc voilà. Et 7 sur 10 parce que, nous dit iFixit, ils se sont rendus compte qu'effectivement, Apple avait mis en place, alors je vous donne dans le détail, à l'arrière, une ouverture pour un accès plus facile qui permet donc d'accéder à l'écran et à la vitre arrière à partir de deux vis, et un châssis métallique au centre qui permet de mieux distinguer les parties avant et arrière de l'appareil. Et donc là aussi, pour la réparation, ça facilite largement les choses. Et donc iFixit dit bravo à Apple, c'est pas tous les ans et c'est pas tous les deux jours qu'on leur dit ça, mais sur ce point là en tout cas ils ont vraiment fait des efforts. Mais comme toi Raphaël, j'ai du mal à comprendre pourquoi lors de la keynote ils ne l'ont pas mentionné, sachant que c'est quand même un petit point positif. Voilà.
Ouais, c'est clair, d'autant que ça rentre aussi dans cette volonté d'Apple de pousser la réparabilité des téléphones. On se souvient il y a quelques mois de cela, ils avaient mis en avant le fait qu'ils vendaient leurs pièces détachées. On avait rigoler avec cette énorme valise qui t'arrive,
kilos de matos.
Qui t'arrive à la maison quand tu veux réparer ton iPhone. Enfin, on voit que pour eux, et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, Raphaël, ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils sont obligés.
Ils sont scrutés de près, mais ils sont vraiment en avance là-dessus. Alors, c'est un truc que j'ai fait un papier pour la sortie du Fairphone 3 pour expliquer pourquoi finalement, en fait, l'iPhone est bien plus écolo que le Fairphone 3. Il n'y avait pas encore cette notion de réparabilité. Déjà, sur la réparabilité, il faut faire le distinguo. Un téléphone réparable, ok, c'est bien, mais on est très peu à réparer son smartphone soi-même. Et donc, ce qui est important, c'est plus qu'il puisse être réparé par des professionnels, parce que la plupart des gens, ils amènent leur smartphone. Donc, si c'est réparable chez Apple, c'est déjà pas mal, finalement, parce que ça veut dire qu'après, ils peuvent réutiliser les pièces. Mais de façon générale, et je sais que parfois, je me fais un peu prendre à partie sur Twitter quand je dis ça, mais pour moi, si vous voulez un iPhone, un smartphone écolo, et le plus responsable et durable, pour moi, c'est l'iPhone. C'est-à-dire qu'à la fois, maintenant, en plus, il est réparable. Mais déjà, avant, un iPhone, sur la durée de vie, c'est incomparable avec le reste. Déjà, la puce, elle est ultra puissante. Comme le système est bien optimisé pour la puce, ça dure plus longtemps.
On a au moins 6 années de mise à jour.
6 années de mise à jour, ce que personne, même Fairphone ne fait pas. Donc, honnêtement, pour moi, Apple coche la case et est à la hauteur en fait de sa position de leader. Et donc, je pense que il faut juste avoir conscience. Il y a plein de défauts chez Apple, à commencer par le prix. Mais encore une fois, on parle du prix. Mais si on le rapporte, si un iPhone dure deux fois plus longtemps qu'un Android, le prix, il faut le rapporter à la durée d'utilisation. Et donc finalement, si on paye deux fois plus cher un smartphone, ou mais, allez, 30% plus cher, mais qu'on utilise deux fois plus longtemps, à l'arrivée, c'est moins cher. Donc après, il faut le financer. C'est pour ça qu'Apple, maintenant, sur le site, ils mettent d'abord le prix en 24 fois, avant de mettre le prix global, c'est comme pour les voitures. Mais voilà, pour moi, à l'heure actuelle, Apple est la marque qui fait les smartphones les plus responsables, les plus durables et les plus écolos en fait dans le monde tout simplement.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
Et j'ai épluché les rapports.
Après, ça ne veut pas dire que sur 6 ans, tu es pas obligé de changer la batterie parce que, mais bon, ça c'est surtout
les téléphones.
En général, il y a
un changement de batterie, mais enfin,
c'est surtout les téléphones. Hein.
Oui, et puis ça coûte. Voilà, bon, c'est quoi c'est... Alors, ouais. Ça a un peu augmenté le changement de batterie.
Après, la réalité, c'est qu'on garde rarement son téléphone 6 ans quand même.
Enfin, non, pas 6 ans, mais 4 ans.
Ouais.
4 ans.
Le changement moyen en France, je crois que c'est 2 ans.
C'est 2 ans et demi, je crois.
Mais justement, c'est pour ça qu'il faut bosser pour que ça passe à 4. Je trouve.
Oui, et puis il y a aussi, comme on le disait, enfin, ces second marchés, même le troisième marché, aujourd'hui, un iPhone peut avoir plusieurs vies.
Oui, t'as le reconditionné.
Ça, c'est quand même incroyable.
C'est quand même pas anodin.
C'est-à-dire, quand t'achètes un iPhone aujourd'hui et que tu le revends 2 ans après, si tu fais attention, que t'as mis des coques, des verres qu'il est dans un bon état, tu vas le revendre une petite fortune.
Mais
hein,
après, je trouve que quand même, pour tempérer un petit peu tout ça, je trouve que sur le côté, alors bravo à eux d'avoir fait ça, mais sur le côté réparabilité, ils envoient quand même des messages assez contrasté parce que tu as ce truc de voilà, effectivement ils ont ajouté deux petites vis pour que les réparateurs, et tu as raison de préciser que c'est surtout pour eux que ça va changer quelque chose, puissent ouvrir le téléphone, le réparer plus facilement, mais en même temps on se souvient, effectivement tu l'as mentionné, cette mascarade du do it yourself, le système répare ton iPhone à la maison, où tu te retrouves où en gros tout est fait pour que tu n'utilises pas ce service parce qu'on t'envoie une valise avec 35 kilos de matos dont tu es absolument incapable de te servir, et on comprend bien qu'ils le font aussi et peut-être avant tout parce qu'il y a une pression, alors des consommateurs peut-être, mais surtout des régulateurs, et notamment aux États-Unis où le droit à la réparabilité, pas seulement pour les smartphones, mais d'ailleurs dans tout l'électronique et même les machines agricoles, enfin il y a plein de secteurs qui sont concernés, ça va être quelque chose, enfin une obligation, et donc il y a une vraie pression sur Apple de ce point de vue-là.
Et cette mallette là, c'était un petit doigt d'honneur au régulateur en disant attendez, vous nous demandez de faire des trucs, je veux dire qui répare son téléphone soi-même aujourd'hui ? Personne. Enfin, pas grand monde. Donc, ce qui est important, c'est que les téléphones soient facilement réparables par les professionnels. Oui, c'est ça qui est important.
C'est ça.
Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, ce fameux indice... Non, mais...
Ouais, après, si c'est un truc du genre changer la batterie, tu vois, n'importe qui peut le faire. À une époque, n'importe qui pouvait le faire.
Moi,
tu ouvrais ton téléphone, tu changeais la batterie.
Mais enfin,
même
pas...
moi,
oui, mais enfin,
du coup,
il n'était pas étanche. Il n'était pas étanche, donc tu as aussi des avantages.
Quand je vois les images, excuse-moi, mais quand je vois les images derrière, je trouve fascinante d'ailleurs. On est hypnotisé. Moi, je suis hypnotisé.
Oui, moi aussi,
par ces images de démontage d'iPhone, c'est incroyable. Franchement, c'est.
Mais jamais de la vie, je fais ça sur mon iPhone.
Moi non plus. Mais après, là où je peux rejoindre Anthony, c'est qu'il y a des gens qui sont plus bidouilleurs que nous, tu vois, moi j'ai des potes, ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, démonter des trucs, etc.
Il faut pas se louper sur un iPhone Pro 14.
Il faut pas se louper, mais si tu as des tutos à l'appel sur Internet, si tu es un petit peu méticuleux et que tu fais gaffe, je pense que tu peux y arriver. Mais ça représentera un pouillème, à mon avis.
Il y a bricolage et bricolage. Hein. C'est, tu vois, entre le 4 quarts et puis le plat façon Joël Robuchon, t'as une gamme de... Tu vois, c'est la même chose entre changer juste ta batterie et aller changer le petit composant qui est au milieu du... Voilà, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein.
Bon. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et je voulais reparler de cet indice de réparabilité qui a été mis en place en France. Moi, je trouve que c'est un peu naze comme indice. Je vois pas l'intérêt. Mais d'ailleurs, ils vont le transformer en indice de durabilité parce qu'il faut arrêter de faire un focus, de se concentrer sur cette histoire de réparabilité. Ce qui est important, c'est que ce soit réparable par les pros, pas par les particuliers. Et ce qui est important, c'est l'indice de durabilité. C'est combien de temps va durer un smartphone ou un ordinateur ou autre. Et donc, ce qui est important, c'est pas le fait qu'on puisse l'ouvrir facilement. Ce qui est important, c'est le fait qu'une fois qu'on a acheté ce smartphone,
que tout
consomme beaucoup d'énergie, qu'on puisse le garder longtemps. Donc, c'est les mises à jour logicielles, donc c'est la puissance, donc c'est plein de choses.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est vachement plus important.
La robustesse aussi.
La robustesse. Et c'est pas anodin que quand on aille sur les sites de smartphones reconditionnés, la plupart soient des iPhones. Ça dit quand même quelque chose.
Autre petite actu concernant l'iPhone, c'est que l'iPhone 14 Pro, comme souvent d'ailleurs, hein, parce que chaque année, on a l'impression que c'est des versions pro. Voilà, l'iPhone 14 Pro cartonne, hein, les ventes explosent.
Alors, ouais, chaque année, mais sauf que depuis au moins 3-4 ans, chaque année, le smartphone le plus vendu au monde, c'était l'iPhone 11, puis l'iPhone 12, puis l'iPhone 13. C'est-à-dire que ce n'était pas la version Pro.
Tiens, je pensais que c'était le Pro,
non,
c'est pour ça que je disais
non.
Ça. Tu vois,
c'est la version basique.
D'accord.
En général, alors en deuxième place, parfois il y avait le Pro, ou parfois le Pro Max d'ailleurs, parce que souvent les gens qui prennent le Pro, du coup, optaient pour le Max,
ouais.
D'où l'iPhone 14 Plus. Parce que souvent, le Pro Max arrivait en deuxième place. Donc
ouais.
Là, ça permet... Il y a une vraie demande pour les grands formats. Mais le smartphone le plus vendu, toutes marques confondues, pas que chez Apple, dans le monde, la référence, c'était l'iPhone 11, 12, puis 13. Et là, ce que veut faire Apple, et je pense que le signal était assez clair, à la fois en laissant la puce à 15 sur le 14 et avec toutes les différences qu'on a entre les deux gammes, c'est le Pro doit être le smartphone le plus vendu. Donc, c'est leur nouvelle stratégie. Et résultat, en même temps, si on met moins de choses dans le 14 et plus dans le Pro, forcément, les gens demandent plus de Pro. Et donc, ils ont réalloué.
C'est un peu se moquer du monde, parce que tu peux te dire, pourquoi faire un iPhone 14 beaucoup moins bien ? Enfin, ça a toujours été la stratégie d'Apple, cela dit.
Oui, mais là, ça s'est amplifié. Et on a notre bien, nous, en France, en Europe, qui est que l'iPhone 14 est vachement trop cher. Aux États-Unis, finalement, c'est l'itération classique, c'est le même prix, donc pourquoi pas ? En France, ça n'a pas tellement de sens. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, c'est Ming-Chui Kuo, l'analyste qui a en général toutes les bonnes sources sur Apple, qui dit qu'ils ont augmenté de 10% les lignes de production. Or, évidemment, sur des produits plus chers, Apple, en valeur absolue, fait plus de marge.
Oui,
donc forcément, ça, s'ils arrivent sans perdre en volume global, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'il y ait des chutes globales de l'iPhone face à d'autres marques, mais si sur leur mix de vente, ils arrivent à augmenter la part du Pro,
ils ont tout gagné. Et ça leur permet peut-être aussi de marger un peu moins sur le 14 à ce moment-là.
Peut-être, je suis pas convaincu.
Ça montre encore la puissance le pricing power, hein, comme on dit en économie d'Apple. Quoi. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est pour moi, on en parle souvent, mais Apple, c'est une marque technologique, mais c'est aussi une marque de luxe. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils pourraient mettre n'importe quel prix. Et en fait, jusqu'où ils peuvent monter le curseur.
Oui, c'est vrai.
C'est la réalité. Puisque en Europe, nous, on a quand même des prix qui sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir la répartition géographique dans les résultats d'Apple.
Ça, on ne le saura jamais.
Ouais. Bah, oui,
enfin, entre pro, de toute façon, on n'a même plus les iPhones.
Non. À un moment, on l'avait, mais maintenant.
On l'a plus depuis 4 ans, je crois.
Non, mais c'est clair. Mais en tout cas, je pense que là. On ne s'attendait pas forcément au fait que l'iPhone 14 Pro fasse un démarrage aussi canon, vu ce qu'on en avait dit, y compris dans l'émission, sur le manque d'innovation quand même repris quand même pas mal.
Le Pro, il est, dans l'absolu, il est assez canon.
Non, c'est un super bon téléphone, mais encore une fois...
Ouais, mais par rapport au 13, là où je vois Anthony,
si t'as le 13 Pro,
ou même le 13 Pro Max, c'est que tu passes au 14 Pro Max.
Non, mais c'est pas forcément pertinent, à moins d'être vraiment fan de photos et que l'encoche, mais non, quand on a le 13 Pro, c'est pas pertinent de changer pour le 14.
Ça reste un très bon téléphone, évidemment.
C'est clair, mais d'un côté, c'est presque rassurant, ça veut dire que le 13 Pro Max est toujours d'actualité, finalement, et qu'il n'y a pas eu de rupture technologique.
Vaut mieux puisqu'il est au même prix qu'avant.
Ouais, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, je vous rappelle que pour déverrouiller votre téléphone, vous avez le Face ID en plus a été, on va dire, miniaturisé sur ces nouveaux iPhones. Peut-être que demain, on pourra déverrouiller, Anthony, son téléphone avec une autre facette de la biométrie.
En soufflant dessus, avec notre haleine, ouais. Alors ça, c'est assez étonnant, effectivement.
J'aimerais pas être un téléphone. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors ça dépend du propriétaire.
Mais le matin au réveil, le téléphone...
certaines soirées.
Lâche-moi.
C'est pas bon.
Alors
je te déverrouille pas.
Je préférais encore ton visage.
Tu sais quoi, je te déverrouille pas.
Tu n'as plus accès à ton téléphone.
Voilà, c'est bon.
Non, alors c'est des chercheurs japonais très sérieusement qui travaillent sur ce sujet de la biométrie en utilisant notre haleine. Parce que notre haleine, sachez-le, c'est un marqueur biométrique exactement comme nos empreintes digitales, comme l'iris de notre œil, comme notre visage.
Oui.
En fait, c'est
quelque chose d'unique.
C'est un marqueur qui nous est propre. On n'a pas la même haleine les uns et les autres.
Tiens.
Et donc, ce qu'ont mis au point ces chercheurs, c'est un petit composant électronique qu'on pourrait appeler un nez électronique, finalement, un capteur olfactif, qui va analyser la composition, les particules moléculaires lorsqu'on souffle sur ce composant, donc qui pourrait être intégré dans un smartphone. Et ça permet d'identifier une personne. Alors, pour un téléphone, pourquoi pas ? On peut imaginer dans des systèmes de paiement pour une sorte de double authentification, ou dans des ports, des systèmes aux aéroports, tout ce pourquoi la biométrie a un usage.
Mais juste une petite question, est-ce que c'est plus fiable est plus sécurisé que, par exemple, l'iris, que la reconnaissance faciale, que l'empreinte digitale.
Alors,
parce que ça, c'est très bien, c'est cool. Mais est-ce que ça a un avantage par rapport aux autres systèmes ?
Alors, ça a un avantage. Plus fiable, non, pour l'instant. Parce qu'il faut bien préciser que tout ça, pour l'instant, on est en phase de recherche et développement dans les laboratoires. Et sur les tests qui ont été réalisés, ça fonctionne assez bien à partir du moment où tu n'as pas une haleine trop chargée. Donc, si tu as bu du café, de l'alcool ou mangé une andouillette juste avant,
elle change.
Elle change, exactement. Et donc là, alors, ça va s'améliorer. C'est-à-dire que la précision des capteurs, pour l'instant, est impactée par
ce que tu as mangé avant.
Ce qui est problématique, évidemment. Ça va s'améliorer. Après, en revanche, là où c'est très intéressant, c'est en termes de sécurité. Parce que ce qu'expliquent ceux qui travaillent, en tout cas les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, c'est que contrairement à l'empreinte digitale ou au visage, c'est très très difficile de copier une haleine. Et donc en termes de sécurité, là c'est très intéressant parce qu'un visage ou des empreintes digitales, quand tu te les fais voler ou recopier, t'es quand même très 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 embêté, parce que c'est pas la même chose qu'un mot de passe quand tu te fais pirater. Alors que l'haleine, pour le coup, ça pourrait permettre...
C'est pas parce que tu vas manger une andouillette et un verre de vin que tu vas avoir la même haleine.
Exactement.
Non, c'est dingue cette histoire-là.
C'est assez étonnant. Alors là, on était dans des produits... fini commercialement sorti. Là, on parle d'un truc qui arrivera probablement sur le marché d'ici quelques années. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces pistes de recherche qui sont très sérieusement explorées aujourd'hui. Certains estiment que l'haleine, c'est le futur Eldorado de la biométrie.
Ça alors, incroyable.
Dingue. Et alors, juste pour terminer là-dessus, parce que du coup, ces capteurs olfactifs, ils ont plein d'autres applications, et notamment dans la détection de certaines maladies. C'est-à-dire qu'avec l'haleine, on va aussi pouvoir, c'est notamment le Technion, université israélienne de prestige.
Hein, À Haïfa,
exactement. Qui travaille sur des petits appareils qui ressemblent à des alcotests, en fait. Et donc, tu souffles dedans, et ça permettra de dépister certains types de cancers, certaines maladies cardiovasculaires.
Il y a pas des chiens.
Des chiens renifleurs qui sont utilisés. Mais alors, les chiens renifleurs, là, je parle de mémoire, mais je suis pas sûr de la validation scientifique de leur. Mais il y a des chiens renifleurs aussi pour les explosifs dans les aéroports qui sont utilisés, par exemple.
Mais pour les cancers,
exactement.
Il me semblait qu'il y avait aussi des pistes de recherche là-dessus.
Il y avait des pistes de recherche, mais je sais pas s'il y a pour l'instant une validation scientifique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, ça c'est très clair.
L'univers olfactif est incroyable, en fait. On est dans un domaine, dans un univers, parce que nous on est vraiment limité dans ces sens-là, hein. Mais il y a des animaux et puis il y a des technologies qui permettent de détecter des molécules que nous on ne sent pas, et je trouve ça incroyable.
On est dans l'homme augmenté, encore une fois, c'est-à-dire que l'électronique va pouvoir exacerber nos sens.
La capacité olfactive d'un animal comme un chien, c'est fou, quoi.
Souvent ces chercheurs utilisent ce qu'on appelle le biomimétisme,
on s'inspire
de la nature. C'est notamment par exemple la truffe d'un labrador qui apparemment est très, ou de certains chiens de chasse, beaucoup plus évolués que les nôtres pour pouvoir concevoir ces fameux capteurs.
Ouais, bon, alors le problème, c'est qu'ils détectent aussi souvent des choses incroyables dans l'urine. Heureusement qu'on ne fait pas ça, nous, parce que ça serait au quotidien un peu fatigant.
Faire pipi sur ton téléphone pour le déverrouiller, ça va être sympa. Voilà.
Bon, dans l'actu, on va parler aussi d'un projet qu'avait lancé Elon Musk il y a quelques années de cela. Alors, il ne s'était pas trop mouillé là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il avait dit, moi, je pense qu'on pourrait un jour, dans des tubes, circuler à des vitesses incroyables, plus de 1000 km/h, on pourrait relier San Francisco et Los Angeles en quelques minutes. Enfin, bref, voilà. Il avait dit, moi, j'ai cette idée-là, je vous la pousse, les gars. Vous êtes un industriel, si ça vous dit, prenez-la et vous en faites un peu ce que vous voulez. C'était l'Hyperloop.
Ouais.
Et aujourd'hui, l'Hyperloop... il est un peu loupé.
Hyper loupé.
Il est hyper loupé.
Ouais, c'est ça. C'est 10 ans après. Enfin, c'était juillet 2012, un peu plus de 10 ans, quand Elon Musk, pour la première fois, a parlé. Donc, il a présenté ça comme un cinquième moyen de transport. Donc, après, le train, la voiture, l'avion, le bateau, qui serait capable de voyager à la vitesse du son. Et donc, il imaginait ces capsules circulant dans des tubes à basse pression et qui permettraient d'atteindre des vitesses autour de 1200 km/h, c'était son estimation, et de relier des grandes villes. Et effectivement, tu as raison de préciser qu'il a dit attendez, moi, les gars, je suis un peu occupé, j'ai autre chose à faire. Donc, industriel du monde entier, prenez cette idée, débrouillez-vous avec ça. Et il y a plein de startups qui se sont lancées là-dessus, mais vraiment, il y en a eu plein. Et des
projets. Ça, c'est l'effet Elon Musk aussi.
Évidemment.
Voilà. C'est clair.
Évidemment. Et y compris d'ailleurs, il y a eu des projets en France, il y a des projets dans le sud-ouest, qui ont été lancés, mais qui, 10 ans après, malheureusement, ne sont pas beaucoup plus loin qu'ils n'étaient à leur démarrage. Alors, il y a des projets qui sont plus avancés que d'autres, mais globalement, on voit bien que ça commence à traînasser un petit peu, qu'il y a beaucoup de doutes sur la faisabilité de ces projets. Il y a notamment un rapport qui a été écrit par l'ancien directeur technique d'Alstom, donc grand groupe de transport français, qui connaît un peu le sujet, et qui a fait une étude de faisabilité complète et qui conclut à une escroquerie technico-intellectuelle. Donc c'est quand même des mots assez forts, avec des points d'interrogation sur la sécurité, donc comment tu gères les évacuations dans un tube à basse pression, c'est vrai que c'est compliqué, sur les systèmes de freinage d'urgence où il faudrait plus de 10 km à l'appareil pour s'arrêter, donc c'est un peu difficile aussi, et surtout la rentabilité du modèle économique, puisque ces petites capsules pourraient accueillir au maximum quelques dizaines de passagers, contre 1000 par exemple pour un TGV duplex. Et donc, si tu veux, le coût serait absolument astronomique. Dans des documents qui ont fuité en 2016, on estimait qu'il fallait 60 millions de dollars par kilomètre pour l'Hyperloop, contre entre 15 et 20 millions pour le TGV par exemple. Donc, ce qui fait que c'est un modèle économique qui serait très très compliqué à rentabiliser d'une manière.
Après, ça va beaucoup plus vite qu'un TGV.
Alors, ça va beaucoup plus vite qu'un TGV.
Mais ça demande. Trois fois plus cher, mais ça va au moins trois fois plus vite.
Il est à 1 500 euros pour un Paris-Lyon,
c'est ça.
C'est compliqué.
Après,
c'est,
encore une fois, c'est l'échelle.
Le problème, c'est que
tu arrives à industrialiser le truc. Après, c'est vrai que quand cette idée était sortie, moi, ce que je m'étais dit, c'est que recréer des infrastructures au niveau d'un pays, d'un territoire,
surtout en France,
c'est des dizaines, des centaines de milliards, en fait. C'est des trucs incroyables.
Ça rappelle un peu l'aérotrain, tu sais, avant le TGV, côté d'Orléans, projet incroyable.
Innovation française.
Ah, innovation française, très prometteuse à l'époque.
Tout à fait. Et qui était tombée à l'eau.
Qui était devant le TGV, puis finalement, ils ont switché au dernier moment. Mais oui, c'est-à-dire que le problème, c'est quand on a des trains à grande vitesse qui sont quand même, on va dire, un rapport qualité-prix extrêmement performant. Et sur l'idée du cinquième moyen de transport, c'est là où il y a un peu une escroquerie, c'est que ce n'est pas un cinquième moyen de transport, ce serait un TGV++, en fait, dans l'usage. Et vu l'investissement, c'est-à-dire que dès le début, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit « Non, mais comment ça peut être cohérent ?» Et le problème, c'est que c'est l'aura d'Elon Musk pousse peut-être parfois à aller un peu trop loin. Alors sur Alstom, c'est compliqué parce qu'à la fois ils risquent d'être concurrents puisque quand même ils développent des rames à moins que demain.
Oui, c'est vrai que c'est un ancien. Le gars, il travaille plus.
Voilà. Ou alors, mais à l'inverse, on aurait pu dire qu'Alstom pourrait. Alors honnêtement, je ne sais pas, mais aurait pu être partenaire aussi pour développer justement des rames de cette Hyperloop. Mais en fait, ce qui est un peu ce qui est plutôt négatif, c'est qu'on voit qu'à la fois, il y a plusieurs projets. Il n'y en aurait eu qu'un qui aurait foiré, on aurait pu se dire, on peut tenter. Mais là, il y a 5-6 projets, il y a eu notamment pas mal de tests aussi quand même, grandeur nature, alors avec une portion très limitée, mais il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Moyen-Orient.
Oui.
Donc il y a eu des tests là-dessus qui ont eu lieu quand même maintenant, il y a 4-5 ans, et on voit que ça avance pas. Donc c'est vrai que je pense qu'il est temps de peut-être d'enterrer ce projet, mais comme on en a enterré tant d'autres. Mais le problème, c'est que dès qu'on touche Elon Musk, les attentes ne sont plus du tout les mêmes.
Et puis surtout, il y a cette petite cerise sur le gâteau, si on peut dire, que Elon Musk a lui-même avoué, alors c'est son biographe qui dit ça, visiblement, c'est quand même Elon Musk qui lui a dit, que lui-même ne croyait pas en ce projet au début.
C'est-à-dire
qu'il a parlé il y a 10 ans d'Hyperloop.
Et on comprend mieux pourquoi il ne s'est pas vraiment investi dans le sujet.
Oui, parce qu'en fait, c'était à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, en Californie, il y avait un projet de train à grande vitesse entre San Francisco et Los Angeles. Et Elon Musk n'en voulait pas. Et donc, il a dit, je vais monter ce truc, cette idée d'Hyperloop qui va venir faire planter le projet de TGV californien. Et puis, on verra ce que ça donnera. En fait, lui-même, si tu veux, c'est une sorte de roublardise à laquelle Musk nous a habitué.
Disons que si on dit qu'on invente le cinquième moyen de transport, mais qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais par contre, on va aller passer du temps pour acheter Twitter, à un moment, il y a un moment, il faut se dire, il y a un truc qui cloche quand même.
Oui, c'est sûr.
Mais arrête, Musk reste quand même un génie.
Clair,
on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a une grande conférence la semaine prochaine.
Oui, sur justement le robot, le fameux robot.
Est-ce que ce sera encore un type avec un déguisement de robot?
Non.
J'ai l'impression qu'on va bien rigoler la semaine prochaine.
Oh là là.
Il a déjà commencé à teaser en disant mais vous savez, les gens qui bossent sur le robot, ils sont très chargés avec le boulot sur Tesla. Bref, on va voir, on aura peut-être une bonne surprise.
Moi, j'attends, en tout cas, je suis très impatient.
Parce que, après, on terminera là-dessus, mais c'est vrai que, pour revenir à ce problème d'Hyperloop, cet essai, en fait, ces expérimentations qui étaient menées dans le Sud-Ouest, le patron de Transpod, qui s'occupait, en fait, de mettre en place cette innovation, avait touché des aides publiques et a dit, écoutez, là, parce qu'en fait, justement, l'État commence à dire, ça marche pas votre truc, il va falloir rembourser. Et il a décidé de rembourser, en fait, les subventions qu'il avait touchées à l'époque Donc c'est pour dire que c'est mal barré hein, quand même cette histoire-là. Mais après, bon, on fait un peu le procès d'Elon Musk, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi, c'est qu'il fait des trucs quand même par ailleurs incroyables.
Évidemment. Et puis il a obligé personne à bosser là-dessus. Hein.
Oui.
Non mais c'est lui.
Il a initié.
Et puis j'espère
qu'il y a quelques... Génie d'Elon Musk, le mec qui lance une idée en l'air. T'as 15 startups qui disent oui génial, on va le faire.
J'espère qu'il y a quand même
des investissements quand même massifs. Enfin, c'est quand même pour créer un train, il faut un peu d'argent.
J'espère quand même qu'il y a quelques ingénieurs aussi calés qui ont dit bah oui, c'est faisable. Ce truc-là. Enfin, il n'y a pas qu'Elon Musk qui a dit c'est jouable. Il y a eu des équipes quand même qui ont réfléchi.
Et puis parfois, pour faire des vraies innovations de rupture, il faut aller vers quelque chose auquel personne ne croit aussi. Donc, on ne peut pas lui reprocher non plus.
Bon, ben voilà. Écoutez, on verra la suite de cette Hyperloop. C'est mal barré quand même. Hein.
Compliqué, ouais.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci François.
Merci Anthony, merci Raphaël, et puis merci à vous de nous écouter et de réagir sur ce club de la presse IT. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos petits messages. On va revenir dans un instant. Est-ce que vous avez une barre de son avec votre télé, les amis ?
Écoute, non, moi c'est à l'ancienne, j'ai juste ma télé, bonne télé, mais il n'y a pas de barre de son.
Voilà.
Si, moi j'ai une Beam de Sonos.
Une Beam de Sonos. J'aime beaucoup. Voilà. Très bon produit aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. C'est d'ailleurs intéressant. Hein. On achète une télé et puis on vous dit « Bah ouais, prenez une barre de son en plus et tout. » Parce que vous verrez, le son des télés n'est pas très bon. C'est vrai hein, d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont tellement fines que la qualité n'est pas bonne. On va en parler. Comment choisir sa barre de son? Quelles sont les marques? Quelles sont les différentes technologies? Enfin voilà, tous ces sujets-là avec Lionel Costa qui me rejoint tout de suite sur le plateau de Quoi je me mail. Il est responsable du Labo Fnac. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle. On est là chaque week-end, BFM Business, sur YouTube, dans l'univers Tech & Co, bien sûr sur la chaîne Tech & Co que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs, hein, box Orange, SFR, Free, Bouygues, vous avez Tech & Co, donc cette chaîne qui vous permet 24h sur 24 d'être au courant de toute l'actualité tech. De quoi je me mêle, deuxième partie avec le Labo Fnac, et je suis ravi d'accueillir encore une fois Lionel Costa. Salut Lionel.
Bonjour François.
Directeur donc du développement du Labo Fnac.
Responsable,
attention. Responsable du développement. Et avec toi Lionel, on va s'intéresser à un produit que vous testez au labo, qui est très intéressant, c'est les barres de son.
Oui.
Parce que c'est un produit, somme toute, assez nouveau, dans l'univers de la tech et du son, typiquement, qui est né, en fait, au départ, d'une faiblesse. C'est-à-dire qu'avec les télés qui étaient de plus en plus plates, eh bien on se retrouvait avec un son de moins en moins bon. Et j'imagine que vous l'avez très vite remarqué, ça, non, au labo ?
Mais c'est exactement ça. En fait, les téléviseurs qui étaient des tubes cathodiques avaient de la place pour placer des haut-parleurs. Je fais un rappel sur le fait que la qualité de son passe sur le volume d'air que l'on déplace. Donc, il faut un peu de place pour ça. Et les écrans plats, évidemment, ils ont réduit beaucoup sur la partie qualité audio. Et quand, il y a une dizaine d'années, les barres de son ont commencé à vraiment intégrer le marché, ça a été un nouvel équipement qui s'est intégré, ou plutôt qui s'est mis entre la télé et les équipements beaucoup plus grands, type home cinéma, où les gens installaient en fait 4-5 enceintes autour de la télé. Et la barre de son était justement là pour pallier à ce défaut, à cette faiblesse que les écrans plats proposaient en termes de qualité audio, qui n'était pas top top.
Non, c'est vrai, il y a des télés aujourd'hui, j'imagine que vous les testez au labo, qui sont horribles en termes de son. C'est-à-dire que parfois, tu es obligé d'acheter une barre de son, tellement le son n'est pas bon, non ?
Alors, on ne les teste pas en audio, les télévisions.
D'accord.
On en teste de temps en temps. On a regardé pour constater c'était quoi le marché, mais c'est une catastrophe pour tout le monde. On a un problème de bande passante au laboratoire. On essaie de tester un maximum de choses, mais quand on voit que des produits sont juste pas intéressants pour le client, on préfère tout de suite se focaliser sur les vraies solutions.
Voilà,
exactement. Et la barre de son en est une. Voilà.
Ouais. Alors voilà, donc si vous achetez aujourd'hui, et vous allez sans doute le remarquer, ou vous l'avez remarqué, si vous achetez une télé écran plat, dernier cri, surtout si vous prenez des modèles ultra fins, etc., OLED, qui sont encore plus fins, vous êtes obligé de passer par une barre de son. Et la question qu'on se pose, c'est, voilà, quel type de barre de son ? Est-ce que je prends quelque chose d'un peu mouse costaud? Est-ce que je prends une connectée style Sonos? Est-ce que je me tourne vers le constructeur de la télé qui souvent propose des barres de son? C'est vrai que ça devient un peu compliqué. Y a des prix. Alors là, ça commence à 150 euros, voire moins, et ça monte à 1000, 1500 euros, voire plus,
presque 3000.
Si tu prends la Devialet, qui est le top du top, elle est à combien, la Devialet?
Celle-là, elle est à 2000, aujourd'hui, elle est à 2299 euros.
2299 euros.
C'est après, dans le prix, on n'intègre pas que la qualité audio. Tu parlais de l'écosystème téléviseur barre de son. Il y a des marques comme Samsung, par exemple, qui proposent des fonctionnalités à partir du moment où tu as le téléviseur et la barre de son Samsung. Donc, ce qu'ils appellent le Symfony Q, qui permet d'avoir vraiment un environnement complètement contrôlé par rapport à l'image. C'est la partie dynamique. Et dans le prix, il y a aussi des fonctionnalités. Je pense à la Devialet Dion, qui est la meilleure barre de son que nous avons testée, mais sans caisson de basse. Ça aussi, c'est une petite évolution des barres de son.
Oui.
Il y a des barres de son seules, des tout-en-un, et il y a des barres de son avec caisson de basse. On a même des barres de son avec satellite, qui rajoutent cette espèce de spatialisation du son, qui donne des effets qui permettent le Dolby Atmos, qui permettent du DTX, etc. Donc il y a beaucoup de typologies et de technologies différentes sur les barres de son, et d'où la différence de prix. Voilà.
Oui, c'est ça, parce que si c'est pour s'ajouter une barre de son plus un caisson, bah, déjà, ce n'est pas le même budget, ça prend beaucoup plus de place, accessoirement.
Oui.
Et puis, il y a aussi cette notion de home cinéma, parce que c'est vrai que les constructeurs aussi te disent aujourd'hui, ouais, tu mets une barre de son, tu es en Dolby Atmos, tu n'as plus besoin de mettre des enceintes à l'arrière, etc., etc. Le marketing est passé par là. J'imagine que vous, là, vous le testez, ça.
Oui, en fait, pour le Dolby Atmos, je suis obligé de m'arrêter juste une seconde là-dessus. C'est qu'en fait, le Dolby Atmos, c'est un effet de rebond que l'enceinte procure. C'est-à-dire qu'elle va produire un son qui va aller dans tous les sens de la pièce, puis va revenir vers l'arrière, vers les côtés. C'est pas fictif. Il y a vraiment un rebond quand on a une pièce adaptée. Mais si on est dans une pièce qui est très longue, très large, avec on va dire que le canapé est au milieu de la pièce, cet effet rebond est beaucoup plus dur à restituer. Donc, il sera jamais aussi efficace qu'un vrai 5-1, un vrai avec des haut-parleurs arrière.
Oui, parce que le son va pas rebondir exactement à l'endroit où vous êtes.
Exactement. Et là, on voit à l'image.
Il suffit qu'on ait un vase ou un truc.
C'est bien
dans labo. Dans votre labo, ça doit marcher.
Justement, là, ce qu'on voit en image, c'est donc notre chambre sourde, notre chambre anéchoïque, justement, elle est faite pour ne pas faire de rebond. Donc, on ne fait pas de Dolby Atmos là-dedans.
Et oui, parce que ça ne marcherait pas.
Ça ne marcherait pas, ça serait absolument...
Parce que le son est absorbé automatiquement.
Exactement. Donc, on fait les mesures vraiment en façade sur l'efficacité pure et dure de l'enceinte en accès direct au niveau du son. Donc, c'est en mode stéréo.
Lionel, on est d'accord, le mode Dolby Atmos, il faut se méfier. C'est pas parce qu'on a une barre de son qui est compatible Dolby Atmos qu'on va avoir le son d'une grande salle de cinéma à la maison.
Exactement. Il faut se méfier beaucoup des infographies où on voit des sons qui se propagent et qui revient comme par magie dans les oreilles.
D'accord.
Ça dépend si vous avez, comme tu disais, des objets ou des rideaux sur les côtés qui vont étouffer un peu le son. Les grandes marques de barres de son mettent en place maintenant des systèmes de micro qui vont générer un son et qui vont analyser le retour du son
pour optimiser
adapter.
Justement le renvoi du
exactement.
Son. Exactement. Et ça
marche bien. Ça marche bien, c'est-à-dire que ça marche bien dans la limite de ce que c'est. C'est du rebond de son. Pour arriver à imaginer que, déjà en accès direct, toutes les enceintes ne sont pas capables de délivrer la réponse en fréquence complète, le spectre audio des basses aux aigus de manière parfaite, imaginer avec des obstacles, avec des textures de mur, avec plein de contraintes, pour arriver à restituer ce son de cette clarté-là, c'est compliqué. Donc, faut y aller mollo sur la magie du Dolby Atmos.
C'est vrai. Après, il y a des constructeurs qui... Parce que c'est un vrai business aujourd'hui, les barres de son. On voit que Sonos accélère avec toute une gamme de barres de son. Alors, ça va beaucoup plus que la barre de son de la télé.
Oui.
C'est vraiment tout l'univers Sonos, donc on peut écouter sa musique, ses podcasts, etc. C'est aussi peut-être une alternative à prendre en compte, non, ça ?
Si, oui, complètement. En fait, c'est vrai que les gens qui sont équipés en Sonos, pour parler d'eux, ils rentrent dans un écosystème pratiquement, parce que c'est vrai que Sonos a toute une myriade d'enceintes qui vont nous suivre quand on change de pièce, sans avoir de rupture sur le son. Tous n'ont pas cette technologie-là, mais c'est vrai que Sonos est une marque à part là-dessus. La plupart des marques essayent de toute façon d'avoir un écosystème propre à leur marque, évidemment pour fidéliser le client et pour avoir un meilleur contrôle sur comment est-ce que les personnes vont utiliser et pour avoir la meilleure qualité possible.
Donc, aujourd'hui, compliqué, hein, quand on va dans une Fnac ou dans un autre magasin de Hi-Fi, on voit qu'il y a des dizaines de modèles de barres de son. Comment choisir, en fait? Alors, j'imagine qu'il y a, certains critères à prendre en compte. Lionel, comment tu pourrais nous aider à choisir cette barre de son?
La première question, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer la barre de son. Et il y a certaines personnes qui accrochent leur téléviseur sur le mur, donc il n'y a pas de meuble. Où est-ce qu'on place la barre de son?
Et
toutes
oui,
les barres de son, on n'a pas d'accroche murale là-dessus. Certaines l'ont. Donc ça, c'est une petite vérification à faire.
Mais donc, si on accroche une télé au mur, comme on fait, on ne peut pas mettre de barre de son, alors?
Si, certaines barres de son permettent de s'accrocher, justement. Elles ont les deux fixations, soit en
comme
meuble,
une télé,
soit...
en fait.
Exactement.
Et c'est standardisé, ça? C'est un peu comme les standards EISA qu'il y a sur les télés?
Exactement. C'est-à-dire, il y a des... Alors, certains sont un peu plus malins que d'autres pour prévoir la perforation des trous. Ils mettent un gabarit dans la boîte. Comme ça, on peut le mettre.
Ah, clac, nickel.
Ça se place directement.
Ah, c'est top. Pas
donc
mal,
c'est quand même
toutes
bien
les
pensé.
Marques font ça?
Non. Non, non. De Vialet le fait, Samsung le fait, Philips et Sennheiser le fait, mais certaines un peu moins chères, laisse aux personnes de se débrouiller. Ensuite, pour choisir, ce que tu indiquais, question de base, satellite ou pas. Selon la disposition de la pièce, on n'a pas forcément la place pour mettre tout. Donc ça, c'est important. Et nous, ce qu'on peut indiquer en termes de test de qualité audio, c'est que les barres de son qui n'ont pas de caisson de basse ne sont pas capables de produire les mêmes niveaux de grave que les barres de son avec caisson de basse.
Ce qui paraît logique.
Ça paraît logique, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Avant, c'était vraiment, il y avait un gros décalage. Ouais. Là, ça se réduit, ce décalage-là.
Pourquoi ? Parce que les barres de son sont un peu plus épaisses, un petit peu plus... Enfin, comme toujours, elles arrivent à manipuler cet air.
Oui, exactement.
Qui fait que tu arrives à avoir des basses.
Et tu as des barres de son qui n'ont pas que simplement deux haut-parleurs. Ils en ont plein. Ils vont avoir 8-10 haut-parleurs. Certains qui vont être dédiés aux graves, d'autres aux médiums, d'autres aux aigus. Mm-hmm. Donc chaque haut-parleur aura sa fonction dans la réponse en fréquence. C'est ça qui va restituer le son dans sa qualité complète.
D'accord.
Et évidemment, le volume joue beaucoup. On vend aujourd'hui des barres de son qui sont ultra plates, qui sont géniales justement pour accrocher au mur. Les graves, c'est pas topissime, mais ça fait quand même l'affaire. Et au
c'est déjà mieux que la télé. En fait, que le son de la télé.
Oui, vraiment.
Et alors là, si tu adjoins un caisson, là, c'est une autre histoire.
Exactement. Mais parce que le caisson amène ces graves-là, et ces graves, on ne peut pas les produire avec une membrane qui est toute petite. Il faut avoir ce déplacement d'air.
Et en plus, je vois qu'il y a des constructeurs qui font des efforts. Tu n'as même plus besoin de fil entre la barre de son et le caisson, par exemple. Ouais. Donc, c'est cool. Tu n'as besoin que simplement d'une prise de courant. Et ton caisson, tu peux le mettre dans un coin caché quelque part, même un peu éloigné de la télé, ça marche.
C'est vraiment, je trouve, la révolution de ces, depuis 5 ans. Et c'est vraiment en train de devenir un standard. C'est grosso modo les fils HF pour connecter les accessoires et tout. Ça existe encore, mais je veux dire, ça, sur ces équipements-là, ça va venir à disparaître parce que le Bluetooth, le Wi-Fi, même si c'est du Wi-Fi propriétaire, est quand même excellent en termes de transmission du son et de la data, puisque maintenant c'est du numérique, c'est pas de l'analogique, donc autant qu'on reste en numérique jusqu'au bout. Donc vraiment, c'est aussi un des éléments pour choisir une barre de son et ses accessoires, c'est de savoir est-ce qu'on a de quoi placer des câbles ou pas. Et donc si on veut pas de câbles, bon, il faut une prise électrique quelque part, en tout cas ça passe.
Et là, Sonos est au top parce que
les Sonos sont dans les.
Cela dit, il faut quand même brancher la télé à la barre de son, hein, ou en HDMI ARC.
Exactement.
Ou alors en fibre optique.
Justement, il y a de la fibre optique, il y a du iARC pour HDMI. Certaines le font en Bluetooth aujourd'hui.
Ah oui.
Justement, il y a des marques comme Samsung qui proposent, mais il faut avoir l'ensemble des équipements Samsung. Donc, on rentre dans ce schéma-là. Nous, on préfère quand même les interfaces qui sont un peu multi-marques pour éviter d'enfermer un utilisateur ou un client sur une seule marque. Mais en tout cas, c'est une
vraie fonctionnalité. Après, il y a des gens qui aiment bien, hein, qui sont rassurés. Ils achètent du Samsung de A à Z, puis ils sont tranquilles.
Généralement, les gens qui choisissent les mêmes marques de bout en bout sont plutôt dans le confort. Mmh. C'est très, très bien. Mais voilà, tout le monde ne le peut pas, donc on préfère vraiment pousser tout l'ensemble des technologies. Ensuite, pour choisir une barre de son, on a aussi la largeur. En fait, c'est tout bête, hein, mais la largeur de la barre de son joue beaucoup. Là, on reçoit des barres de son qui peuvent atteindre les 2 mètres de largeur.
Wow.
Et d'autres, au contraire, ultra compactes, qui sont à peu près à 40, entre 40 et 50 centimètres.
Mais la raie est la toute dernière
exactement.
De Sonos, c'est toute petite en fait.
Bah, elle est faite pour ça, justement, pour les gens qui n'ont pas un garde-meuble.
Ouais. Et ça se sent d'ailleurs, hein, parce que moi je l'ai testé et j'aime beaucoup Sonos, je trouve qu'ils font des super produits. Elle est vraiment pas chère en plus, hein, elle est à moins de 200 euros, je crois.
J'ai pas le prix, mais oui, on est autour des 200-250 euros.
Voilà.
Parce que c'est pas fait pour être vraiment remplacé un home cinéma.
Il n'y a pas une spatialisation du son énorme, parce que justement, comme elle est petite, il n'y a pas de la stéréo est difficilement ressentie en quelque sorte.
Sonos...
En revanche, il y a des basses et ça change du son de la télé normale.
Et Sonos vante vraiment les mérites de son écosystème. Donc, si on achète celle-là, on va acheter aussi d'autres enceintes Sonos. Tout ça peut se coupler.
Oui, c'est presque un produit d'appel en fait.
Exactement. C'est un produit qui fonctionne tout seul,
mais qui peut après être évolutif. Quelles sont les meilleures marques dans ce domaine de barres de son?
Alors, j'ai fait la petite sélection donc, avec Régis Bertrand, qui est la responsable des tests des barres de son.
Qu'on salue.
Exactement. Sans qui, tous les responsables des tests, sans qui le laboratoire ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les meilleures barres de son qu'on a testées actuellement au labo FNAC, j'en ai relevé deux. Il y a une plutôt haut de gamme, celle-là, la Samsung HW-Q930B. Elle a l'avantage d'avoir un caisson de basse plus deux satellites.
Donc on achète tout un concept en fait.
C'est pas un home cinéma, mais c'est une barre de son qui permet de faire d'avoir plusieurs satellites qui donnent une qualité de son.
Mais les satellites, on les met où?
À l'arrière.
D'accord.
Ah, à l'arrière.
Donc on a quand même du pas du 5 points, mais on a un peu de home cinéma quand
Samsung
même.
Samsung l'annonce comme du 9.1.4. Pourquoi? Parce que la barre de son a des haut-parleurs vers le haut, vertical, qui vont passer par le plafond et qui va nous mettre un son provenant
d'où le Dolby Atmos, j'imagine.
Exactement. D'accord. Donc, c'est en tout cas, en termes de qualité audio, je fais un petit rappel sur ce que l'on teste sur les barres de son. La barre de son, nous évaluons quoi? La réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de la barre de son à produire des bonnes graves, des bons médiums et des bons aigus. Le but, c'est que ça soit le plus neutre possible pour ne pas avoir de suraccentuation et des effets caverneux ou un peu métalliques. On teste également la puissance. La puissance, ça veut dire qu'on va pousser la barre de son au maximum jusqu'à un taux de distorsion. On ne va pas la pousser jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et là, la Samsung,
elle est très bien.
À 99 décibels.
Et elle est à quel prix, celle-ci?
Elle est à 990 euros.
Voilà. Celle-là. Avec donc le caisson et les deux satellites.
Pareil, mais pas du tout dans le même budget, mais qui est excellente, la Sony HT-G700 qui est à 400 euros.
Ah, pareil, déjà plus raisonnable.
Elle a un caisson de basse, elle seule, mais c'est pareil, c'est un superbe produit. Enfin, on les met vraiment ces deux-là comme étant les meilleurs produits. Après, on a ceux-là sont avec des caissons et des accessoires. La meilleure barre de son que nous avons testée sans caisson de basse, c'est la de Vieledion.
D'accord.
On a eu en plus la chance d'accueillir les ingénieurs au labo. On a travaillé avec eux plus pour la compatibilité avec l'HDMI, eARC, etc. Donc, on est en plus de Vielet, c'est une marque qu'avec le groupe Fnac Darty, il y a vraiment une belle complicité, travail.
Oui,
parce qu'on veut produire les meilleurs.
Mais ça ne trouble pas vos tests. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes bienveillant avec de Vielet que vous allez remettre une bonne note.
Non, exactement.
On est d'accord.
C'est-à-dire qu'en fait,
vous les aidez parce que déjà ils sont bons. Hein,
oui.
Mais ça va pas changer
votre
perception de la qualité du produit.
Exactement, parce qu'en fait, quand on reçoit que ce soit des startups ou des grosses sociétés comme ça, nous c'est de la mesure physique. On n'a pas de jugement arbitraire en disant c'est mon copain, je vais lui mettre. Non, c'est de la mesure physique. Et nous, notre but à la fin, et c'est la confiance que le groupe Fnac Darty donne avec le labo Fnac et cette indépendance par rapport au commerce, c'est que on veut fournir à nos utilisateurs et nos clients les meilleurs produits possibles. Voilà, et donc on les accompagne non pas sur la qualité acoustique, mais sur la compatibilité logicielle de leur carte intégrée, qui n'est pas un élément que nous évaluons.
Bon, elle est à
2299 euros.
2299 euros, mais bon, elle est mouse costaud, elle est peut-être un peu imposante quand même.
Elle est un peu grosse.
Mais bon, vous en avez pour votre argent,
C'est un beau design, mais bon. Ensuite, on a la
dernière, parce qu'on est, oui, on est pris
oui,
par le
pardon,
temps, la toute dernière.
En fait, je pensais à la meilleure barre de son à moins de 200 euros qu'on a.
Ah, c'est bien ça.
La Denon DHT-S316 à 199 euros, 98 dB de puissance, une superbe réponse en fréquence. Elle a un caisson de basse, mais à moins de 200 euros, on peut vraiment se faire plaisir avec ça.
Et puis Denon, marque prestigieuse qu'on
en
a
plus,
tous.
En plus, oui, exactement.
Voilà, tu peux répéter la référence?
La Denon DHT-S316.
Voilà, parfait. Merci beaucoup Lionel.
Merci
voilà.
à toi.
Je pense qu'on a un petit peu défriché le terrain concernant les barres de son, mais tester, tiens, tester, aller dans des magasins, on peut se mettre en immersion, oui, voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que si vous regardez beaucoup la télé, c'est quand même aujourd'hui un accessoire quasi indispensable. Merci Lionel.
Merci.
Responsable donc du développement du Labo Fnac, qu'on retrouve régulièrement dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, ben merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.